France Inter, le 18-20.
C'est le chiffre qui a frappé forcément, c'est un seuil, comme on dit, celui des 100 000 demandeurs d'asile. L'augmentation par rapport à l'année dernière, elle est nette, mais pas étonnante non plus. L'Europe de 2018 en termes de migration, c'est pas l'Europe même de 2013, tout a changé. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, au printemps, une loi sera débattue, une loi asile et immigration, autour de laquelle les associations sont reçues. Dès demain, c'est le début des discussions, mais on parle déjà de plus de souplesse et de rapidité pour les demandeurs d'asile, plus d'expulsion aussi. Il y a ce chapitre également déjà très polémique sur la vérification du statut des migrants dans les centres d'accueil. Alors, comment accueillir mieux? Faut-il accueillir plus? Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on doit tordre le bras de l'Europe? Et comment? Et chez vous, comment ça se passe? Vous avez peut-être un centre d'accueil depuis quelques mois chez vous. Eh bien, venez nous raconter. Le téléphone sonne, est à vous.
Fabienne Saint-Esse. Le téléphone sonne.
Michel, c'est vous le premier. Soyez le bienvenu. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Voilà, je pense personnellement que la France ne fait pas assez dans l'accueil des immigrants et je me demandais pourquoi la France n'était pas capable de créer des villages d'accueil comme cela se fait dans le Liban, au Liban et dans d'autres pays pour accueillir plus dignement ces immigrants, ces migrants qui souffrent et qui ont besoin d'aide et pourquoi les recevoir dans des accueils vraiment vétustes ou dans des hôtels, ce qui coûte très cher et qui ne correspond pas à leur situation. Voilà.
Ben, merci d'avoir ouvert le bal et merci pour votre question. Michel, pour vous répondre et pour débattre ce soir au téléphone sonne, Laetitia Avia est là, bonsoir. Vous êtes
bonsoir.
Députée de Paris, déléguée nationale d'En Marche. Michael Neumann est avec nous aussi, bonsoir. Chargée d'études pour Médecins Sans Frontières.
Bonsoir.
Roland Ries avec nous en duplex de France Bleu Alsace, qu'on salue et qu'on remercie au passage. Vous êtes le maire de Strasbourg, monsieur Ries. Vous êtes à l'initiative d'une tribune qui est parue dans Le Monde, c'était le 16 décembre dernier, qui disait « Nous sommes au pied du mur » et qui parlait de la pénurie de moyens pour accueillir les migrants dans certaines mairies. Et puis Julie Pietri du service reportage de France Inter est avec nous également.
Bonsoir.
Je voudrais qu'on revienne tout de suite, tiens, Michael Neumann peut-être avec vous, sur ce que dit Michel à l'instant. D'abord, il y a ce qu'il dit sur le fait qu'on n'en fait pas assez, puis comment en faire plus. D'abord, est-ce qu'on dit, dans une association comme Médecins Sans Frontières, oui, la France n'en fait pas assez pour accueillir les migrants aujourd'hui?
Oui, la France en fait peu et en fait surtout assez mal, en tout cas au niveau de ce que sont les autorités de l'État, les autorités centrales. Pour rebondir sur ce que disait notre auditeur et pour peut-être anticiper ce que dira monsieur le maire de Strasbourg, certaines villes et certains villages en ont fait beaucoup. Les villes et villages ont accueilli des migrants dans des centres d'accueil et d'orientation, au sein desquels finalement ça s'est plutôt bien passé. Pour le reste, la politique nationale telle qu'elle est aujourd'hui définie et mise en place par messieurs Macron, Édouard Philippe et Gérard Collomb, elle est surtout caractérisée par une violence très intense à l'égard des migrants, des immigrés, des primo-arrivants en France, que ce soit le cas à Calais, à Paris ou dans les zones frontalières de l'Italie par exemple. Avec des témoignages à la fois des associations et des migrants eux-mêmes de confiscation de couverture, de destruction de tentes, de refoulement sauvage à la frontière. On se souvient d'un reportage très intéressant et illuminant d'un reporter de Radio France, Raphaël Kraft, justement sur le renvoi d'adolescents guinéens en Italie avant même qu'une chance leur soit donnée de déposer une demande d'asile. Donc aujourd'hui...
Mais vous diriez que quelque chose a changé, en fait. Vous, depuis ces derniers mois, par exemple, plus de sévérité, vous parliez de l'attitude des uns et des autres. Alors après,
je parlais d'évolution mais... plutôt que de révolution, en l'occurrence. Ça fait des dizaines d'années maintenant qu'on est dans une dynamique, je dirais, de dissuasion à l'égard de cette population. Mais très clairement, ce qui se passe aujourd'hui est de l'ordre de l'intensification des violences à la fois à l'égard des migrants et des réfugiés eux-mêmes, en tout cas dans un certain nombre de situations, et des aidants. Et on pourra peut-être revenir
et
aussi sur ce point-là.
On y reviendra bien sûr. Julie Pietri, d'un mot, qui voulait intervenir, puisque des reportages de ce genre vous en avez fait, puis bien sûr Laetitia Avia, on vous donnera la parole.
Oui, Gérard Collomb, par exemple, il dit souvent qu'il veut défendre le droit d'asile, c'est le but de ce projet de loi, mieux défendre le droit d'asile. Aujourd'hui, il a aussi dit qu'il y avait 85 000 personnes non admises aux frontières. Ça veut dire quelque chose aussi. Ce sont des personnes qui n'ont pas pu demander l'asile si elles le souhaitaient.
Non admises, ça veut dire pas rentrées, pas réussies à atteindre la frontière.
Des non-admissions, oui, c'est ça.
Ben, on a plusieurs rideaux qui se mettent en place, qui sont destinés à empêcher les gens, effectivement, de rentrer. Donc, il y a plusieurs choses, finalement. Il y a l'idée aujourd'hui que le gouvernement se fait le promoteur, que la filière d'entrée respectable, c'est l'asile. Et qu'il faut lui garder sa spécificité, mais effectivement, encourager de lui donner toute sa place. Pascal Brice rappelait ce matin sur votre antenne, à quel point, lui, de son point de vue, il est effectivement attentif au respect de cette politique. Et ça me semble, de son point de vue, là aussi, assez normal. Mais la demande elle-même d'asile, elle est contrainte par tout un tas de dispositifs. Alors, il y a
Ça veut dire que le problème, Dublin, c'est pas tellement une fois qu'on va faire la démarche, qu'on est là devant, c'est tout ce qui amène à la démarche et surtout les retards avant de pouvoir faire la démarche.
Alors c'est ça les deux, c'est qu'il est aujourd'hui très très difficile d'entrer en France de manière légale pour demander l'asile et que par ailleurs, une fois qu'on est sur le territoire, il faut camper, comme on l'a vu, boulevard de la Villette à Stalingrad pendant des jours avant de déposer sa demande et puis dormir dans des conditions impossibles. Donc, il y a plusieurs soucis. Et par ailleurs, donc, le souci sur la politique migratoire de manière générale, sur laquelle, là aussi, je pense qu'il faudrait qu'on revienne.
Et alors, justement, on y reviendra. On a toute l'heure, une demi-heure maintenant, pour y revenir. Laetitia Avia, sur plus de violence, plus de sévérité, on va dire, en tout cas, de la part de ce gouvernement vis-à-vis des migrants.
Écoutez, moi, je suis souvent interpellée sur cette question. Et bien sûr, en tant que responsable politique et en tant que responsable politique de la République En Marche, je ne pourrais jamais vous dire, bien sûr, que nous cautionnons des violences vis-à-vis de personnes qui sont dans une situation qui est une situation de détresse. Et c'est ce qu'il faut rappeler concernant ces demandeurs d'asile. Nous avons eu des échanges, notamment avec le ministre de l'Intérieur, sur cette question. Et c'est vrai que j'entends souvent, et tout à l'heure, monsieur évoquait encore, tout à l'heure, des tentes lacérées ou des conditions qui sont des conditions inacceptables sur notre territoire français. Là où il y a un sujet, c'est que aujourd'hui, j'entends cela, on le voit par voie de presse, où sont les preuves, où sont les éléments? Moi, j'en appelle à ce que ceux qui ont des images, ceux qui ont des preuves de ces comportements qui ne peuvent être admis sur notre territoire, aillent justement les présenter devant la justice, puisque ces comportements doivent être sanctionnés.
Mais concrètement, Laetitia Avia, pardon, et sur le fond du problème, faut-il aujourd'hui, comme c'est peut-être dans l'air sur ce projet de loi, vous allez nous le dire, faut-il aujourd'hui expulser plus qu'on expulse aujourd'hui? Faut-il le faire plus rapidement et plus sévèrement?
Il faut expulser mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concernant les déboutés du droit d'asile, concrètement, 4% de ces déboutés uniquement sont expulsés du territoire. Ils sont censés être expulsés, mais cette expulsion n'est pas effective aujourd'hui. Donc il faut donner un peu plus d'efficacité à nos mécanismes, puisque lorsque l'on est débouté du droit d'asile, on est en situation irrégulière sur le territoire français. Le gouvernement et la majorité parlementaire assument d'aujourd'hui vouloir privilégier et protéger un maximum les demandeurs d'asile. C'est une politique aujourd'hui en faveur d'un accueil plus digne de ces demandeurs d'asile. Alors qu'est-ce que c'est un accueil plus digne? C'est notamment réduire ces délais durant lesquels une personne va être dans un sas, dans un no man's land, où on n'a pas finalement de statut lorsque l'on vient de passer des mois à quitter une situation inadmissible, à traverser des pays dans des situations encore inacceptables.
Mais si on expulse en France, plus, est-ce que le corollaire justement de réduction de délai, c'est d'expulser plus? C'est deux choses qui sont très différentes, non?
Non, ce sont deux choses complètement différentes. On n'expulse pas plus. On a deux éléments dans cette politique. C'est un, d'accueillir plus dignement, avec un certain nombre d'éléments. Et d'ailleurs, pour répondre à la question de l'auditeur de tout à l'heure, on a un budget qui repose aussi bien sur le ministère de l'Intérieur que sur le ministère de la Cohésion des Territoires, et qui va notamment permettre une orientation territoriale de ces demandeurs d'asile, puisqu'il y a certaines zones qui sont en effet arrivées à saturation, mais il y a certains endroits dans notre territoire qui sont mieux à même aussi d'accueillir plus dignement ces demandeurs d'asile. Mais ensuite, on a, et c'est le second volet, qui n'est pas une conséquence du premier, mais c'est juste qu'il faut assumer, lorsque l'on prend une décision de justice, de la rendre également effective. Et on a donc 96% des déboutés qui aujourd'hui n'ont pas de conséquences à cette décision d'expulsion du territoire.
Roland Ries, je voudrais vous entendre, vous qui êtes à Strasbourg et qu'on a un peu oublié en ce début d'émission. Vous, dans cette tribune que vous avez publiée dans Le Monde, Nous sommes au pied du mur, vous dites qu'il faut repenser les réponses aux défis que nous donnent les migrants aujourd'hui. On parlait à l'instant d'accueillir plus dignement. Repenser les réponses dans une ville comme vous, qui accueille des gens, ça veut dire
dire quoi?
Merci beaucoup de me donner la parole. Merci de ne pas m'avoir oublié, même si je suis loin de vous. Mais je vous ai suivi de très près. Et je voudrais dire un mot d'abord en réponse à l'auditeur qui parlait du Liban. Mm-hmm. Il se trouve qu'il y a quelques mois, j'étais au Liban et on m'a donné des chiffres. Le Liban, c'est à peu près 4 millions et demi d'habitants globalement. Mm-hmm. Et 1,5 million de réfugiés. Et la personne qui a fait l'exposé devant l'Association internationale des maires francophones disait, si la France devait proportionnellement accueillir le même nombre de migrants que le Liban, il faudrait qu'on en accueille 19 millions ou 20 millions. Évidemment, on en est très loin, puisqu'on est sur 30 000, et encore sur 2 ans. Donc je dirais que la situation que nous connaissons aujourd'hui en France est une situation extrêmement préoccupante. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai effectivement, avec plusieurs collègues de grandes villes, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille,
Grenoble, etc.
J'ai lancé un appel au pouvoir public, mais ce n'est pas uniquement un appel pour demander. C'est un appel pour que les collectivités publiques locales qui sont en première ligne, notamment les grandes villes, puissent apporter leur pierre à l'édifice. La responsabilité de l'accueil des migrants, c'est l'État, bien entendu, ça a été dit. Mais nous, maires des grandes villes, on sait que cette situation, elle ne pourra pas être résolue par l'État tout seul. Et donc nous apportons, et à Strasbourg, très concrètement, j'ai pris des décisions, nous apportons notre contribution à cet appel, à cet accueil des migrants. C'est un phénomène auquel il va falloir faire face, et il ne va pas s'arrêter. Du coup, j'ai dégagé un budget pour créer 100 places d'hébergement supplémentaires. J'ai proposé effectivement qu'on puisse, en période de grand froid, ouvrir des gymnases. J'en ai même proposé 3 très précisément. L'objectif final, c'est d'arriver à 500 places d'hébergement qui pourraient être cofinancées par l'État et les collectivités. Donc on n'est pas là pour mettre en accusation, en tout cas pas moi. Je souhaite effectivement qu'on ait une co-construction, en quelque sorte, d'une vraie politique d'immigration et d'asile.
Et on entend ce que vous dites, on y reviendra probablement sur le fait qu'effectivement, ça ne s'arrêtera pas là. Le mouvement, évidemment, va se poursuivre probablement encore pendant plusieurs années. Je voudrais qu'on écoute Cécile qui nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue sur Inter, on vous écoute.
Merci beaucoup et merci pour vos émissions vraiment très intéressantes. Heureusement que vous êtes là.
Je suis assez d'accord avec vous. Allez-y. Vous n'avez pas de questions, Cécile.
Alors, écoutez, c'est pas vraiment une question, c'est un témoignage. Parce que je suis quelqu'un qui est prête à aider, si vous voulez. Je suis bénévole, voilà. Je suis une bénévole, entre autres, à la Croix-Rouge en alphabétisation. Et je suis allée voir 2 centres de migrants dans ma région. Alors, je préfère pas les citer, si vous voulez, parce que j'ai peur. Je préfère pas, malheureusement. Un qui fonctionne bien.
Et puis ça vaut pour l'exemple, en fait. Donc, allez-y, vous inquiétez pas.
Oui. Alors, un qui fonctionne bien parce qu'il est ouvert depuis juillet. Donc, si vous voulez, les gens qui sont là sont pas des primo-arrivants. Ce sont des gens qui sont en France depuis déjà au moins 3 ans. Donc, tout se passe bien. Les enfants sont scolarisés. Mais, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de contact, si vous voulez, avec des gens de la ville. Et quand nous y sommes allés avec des amis, ils ont été heureux, mais vraiment heureux de nous voir. Et donc je pense que il y a quelque chose à faire dans ce sens. Et l'autre centre que je suis allée voir vient d'ouvrir en décembre. Lui, il accueille une 20aine d'hommes et à peu près 5 familles. Mais si vous voulez, voilà, mon témoignage, c'est pour ça. Rien n'a été organisé avant leur arrivée. Donc, nous y sommes allés aussi proposer nos services. Mais on nous a dit que c'est pas possible comme ça, quoi. Il faut attendre des choses administratives. Il faut attendre d'avoir des assurances, enfin bref. Et donc, ces gens qui sont en demande d'attention, de pouvoir communiquer, apprendre le français, parce que ceux-là ne parlent pas français, eh ben on est obligé d'attendre, on ne peut pas leur apporter notre aide. Voilà.
Merci.
Donc, voilà, mon témoignage, c'est pour dire Il faudrait organiser des choses avant de les faire venir.
Merci beaucoup, Cécile. On a bien entendu, bien compris, Laetitia Via. On parle de disparité aussi, de deux endroits qui sont proches apparemment du domicile de Cécile, où les choses se passent très différemment pour l'un comme pour l'autre.
Moi, ce que je retiens beaucoup de cette intervention, c'est aussi cette solidarité qu'on a sur le territoire et vraiment cette présence des associations qui sont actuellement aussi entendues par le ministère de l'Intérieur et qui contribuent vraiment à améliorer les conditions d'accueil. Madame parlait d'une association en vue de l'alphabétisation, pardon. C'est un élément essentiel, tout comme le fait de pouvoir donner aussi une situation, une protection en matière sociale, un accès au travail le plus rapidement aussi possible. Tout cela, c'est ce qui participe à ce que je vous disais tout à l'heure, ces conditions plus dignes d'un accueil et qui doivent se faire en fait dès le premier jour d'arrivée sur le territoire. Et c'est le sens de ce qui sera porté par le gouvernement prochainement.
Michael Neumann, est-ce qu'il y a effectivement une différence profonde d'un centre à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un département à l'autre ?
Oui, il y a certainement des différences d'approche. On voit des attitudes municipales très différentes. On a beaucoup, nous, travaillé avec Damien Carême depuis un peu plus de deux ans sur la mise en place, par exemple, d'un camp dit humanitaire au début de l'année 2016. On note des comportements évidemment différents, des expertises, des expériences de la part des associations aussi différentes. Parce que aussi, je dirais que tout cela manque de cadre, je dirais, national, de cadre politique national destiné à impulser réellement une politique d'accueil. Donc chacun est laissé un petit peu à sa propre capacité d'agir avec ses moyens, sa bonne volonté, etc. Donc très bien, Laetitia Via part de la solidarité sur le territoire, c'est parfait. On parle des conditions d'accueil pour les primo-arrivants. Le premier besoin des individus, c'est lequel ? C'est de dormir. À Calais, on a des gens qui sont empêchés à coups de bottes de dormir, réveillés la nuit dans les bois, obligés de marcher et de errer toute la journée. On leur pique leur sac de couchage tous les jours, on enlève leur tente. Vous allez sur le site internet, vous suivez le fil Twitter, par exemple, d'une association comme l'Auberge des Migrants, et ces films dont nous parlons, vous les trouverez. Vous trouverez des photos de jerrycans d'eau aspergées par de la lacrymogène. Moi, j'étais à Calais au mois de juin, je m'y rends régulièrement depuis quelques années maintenant. Je peux vous assurer que ce dernier séjour m'a laissé dans un état de choc absolument incroyable. Je me suis trouvé dans un zoo avec des gens à qui on acceptait de donner de la nourriture deux fois 15 minutes par jour en ouvrant leur cage. Je pense que quand on parle de conditions dignes et humaines dont le gouvernement souhaiterait se faire le promoteur, on est très très loin du compte. Donc je pense que il faut... Moi je voudrais arrêter une petite minute de parler de la concertation politique et bureaucratique et regarder réellement les actes. Et il me semble qu'aujourd'hui, les conditions pour un dialogue un petit peu constructif autour de la définition d'une politique d'accueil un petit peu bienveillante ne sont pas réunies. Juste un dernier mot.
Très très vite, s'il vous plaît.
Très très vite. Je voudrais adresser un petit hommage particulier à un monsieur qui nous a quitté il y a deux jours, Étienne Tassin, qui était un philosophe spécialiste d'Anna Arendt et qui est mort, décédé des suites d'un accident de la circulation et qui avait produit ces derniers temps des textes remarquables sur Calais. Donc je voulais juste souligner à la fois son travail, sa mémoire, et puis inviter les auditeurs à se référer notamment à ses textes.
Et ils le feront. Laetitia Via, je vous voyais réagir et vous vouliez répondre, et allez-y.
Oui, je voulais répondre en effet sur Calais. Alors encore une fois, hein, moi j'invite vraiment toute personne qui a des preuves à prendre ses responsabilités également et saisir la justice de ces comportements que nous ne pouvons accepter, je le répète encore une fois. Mais on parlait de faits, d'actes. À Calais, on a aujourd'hui, cette année, 5 centres supplémentaires. Dans le budget 2018, nous avons voté pour cet hiver 12 000 places d'hébergement supplémentaires. Dans ce qui sera présenté également et de manière pérenne par le ministre de l'Intérieur, on a 9 000 places d'hébergement encore, dont 5 000 pour les réfugiés et 4 000 pour ceux qui sont en demande d'asile. Donc ça, ce sont des réponses concrètes également apportées pour ces personnes qu'il faut aujourd'hui, en effet, dès le premier jour, loger et, oui, loger dignement. Mais ce sont des actes, ce sont des faits et ce sont des éléments que l'on peut voir concrètement appliqués par le gouvernement.
Et puisqu'on parle de Calais, on a Baptiste qui nous appelle de Calais. Vous êtes calaisien. Bonsoir Baptiste.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y Baptiste.
Bonsoir à tous. Donc moi, comme vous l'avez précisé, je suis calaisien, donc je suis touché particulièrement par la question migratoire. Et en l'occurrence, donc moi, je tiens à témoigner pour dire que je vois à côté de l'hôpital de Quai, notamment à plusieurs endroits, des gens qui sont dans le froid, qui n'ont rien, qui n'ont encore moins qu'avant, en l'occurrence, depuis le démantèlement de la jungle, qui font des feux de camp pour se réchauffer. Et je pense que l'expulsion, comme on en parlait tout à l'heure, c'est pas forcément la meilleure solution, mais il faudrait peut-être prôner un vivre ensemble, puisque c'est des gens qui ont quitté leur pays, donc qui ont une éducation, et qu'il faut peut-être vivre ensemble, parce que je pense que c'est vraiment la devise de la France, de vivre avec les autres, en fait. Donc je sais pas ce que vous en pensez.
Eh ben écoutez, on va demander autour de nous ce qu'on en pense, et en même temps, Laetitia Avia, j'imagine que là-dessus, tout le monde peut être d'accord avec Baptiste.
J'espère que tout le monde sera d'accord avec monsieur, bien évidemment.
Roland Ries en duplex à Strasbourg, le maire PS de Strasbourg. Quand on entend les gens s'étonner des difficultés d'accueil, en fait, s'étonner surtout de la non-préparation. Moi, je suis un peu étonné parce que j'ai l'impression que, notamment, l'arrivée des migrants dans un certain nombre de centres et dans un certain nombre de grandes villes comme la vôtre a été justement largement préparée en amont. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous manque cruellement aujourd'hui pour que vous puissiez fonctionner correctement ?
Alors, je vais vous répondre très directement.
Allez-y.
En réalité, il y a beaucoup de partenaires qui sont concernés par l'accueil des migrants. Et j'espère que dans ce pays, on sait que la tradition d'accueil est ancienne et qu'il faut la perpétuer. Même si on a connu, et on connaît aujourd'hui, une période de populisme, de réticence par rapport à cet accueil, et on a tendance à accuser les migrants de tous les maux. Moi, je pense qu'il y a les pouvoirs publics, je l'ai dit tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus, nationaux, locaux, mais aussi européens, il faut quand même le dire. Il y a les associations caritatives. Il y a les structures citoyennes, en quelque sorte, les bailleurs sociaux. J'ai même un promoteur immobilier qui a proposé qu'un bâtiment qu'il avait acheté, et qui n'était pas prêt à être transformé, qui m'a dit « mais je suis prêt à le mettre à disposition pendant un an pour les migrants ». C'est quand même étonnant. Et puis, il y a les citoyens. Et ce qui manque, c'est du lien entre tout cela. Et je crois que c'est au pouvoir public de mobiliser tout ce monde-là, mais avec une base, c'est la base de l'accueil de populations en difficulté. Strasbourg est, depuis l'époque de la Renaissance, une ville d'accueil. On a accueilli Calvin à l'époque où il était pourchassé, à l'époque de la Réforme. Et je trouve qu'il ne faut pas perdre cette spécificité française, strasbourgeoise évidemment.
Et vous pensez qu'on est en train de la perdre,
d'ailleurs développée notamment à la fin du 19e siècle, à l'époque où Strasbourg était dirigée par les Allemands et notamment par Bismarck.
Et alors, sans remonter jusqu'à Bismarck, Roland Ries, vous avez l'impression quand même qu'on l'a perdue, cette tradition ? On ne fait plus l'effort aujourd'hui ? On ne se donne plus les moyens d'eux ? Est-ce que c'est ça que vous dites ?
C'est ce que je disais tout à l'heure. 30 000 migrants, notre quota. 30 000 sur 2 ans. Alors que les besoins sont énormes et qu'ils vont croissant. Donc l'idée que les migrants seraient une menace pour la République, enfin, qu'ils seraient pour l'essentiel preneurs d'emploi ou que sais-je, qu'ils empêcheraient finalement les citoyens de Strasbourg ou d'ailleurs de vivre correctement, est une idée fausse qu'il faut combattre. C'est faux de dire cela sous cette forme. Au contraire, j'étais avec des chefs d'entreprise là il y a 2 jours, eux se plaignaient ici de ne pas trouver de personnel qualifié. Donc cet apport de l'extérieur, il n'est pas négatif. Il est en réalité une chance qu'il faut saisir. Et ça s'inscrit dans nos traditions.
Michael Neumann, pour un mot, on écoutera un auditeur dans une seconde.
Oui, parce que je pense que ce que dit Monsieur le maire est vraiment intéressant. Parce que ce qui est en train de se passer sous nos yeux, ces pratiques, cette politique qui se développe là, elle heurte beaucoup de monde. Elle heurte un certain nombre d'associations, elle heurte des représentants locaux, et puis elle heurte aussi des citoyens, des gens comme ça, hein, dont elle parlait tout à l'heure. Et pourtant, ce sont justement ces efforts-là qui sont, je dirais, dissuadés, parfois criminalisés, poursuivis. On a vu ces derniers mois, à la frontière italienne, maintenant à Calais, des personnes qui sont, je dirais, découragées dans leurs efforts par la justice, la police, et que cette politique-là, elle de manière totalement ironique, pousse à la radicalité, finalement, des gens qui n'avaient comme ambition que de porter secours à leur voilà ce qu'on va à leur prochain à des gens
on,
à des
on va
gens.
On va revenir parce qu'il y a une question dessus sur le fameux délit de solidarité parce que c'est ça dont vous parlez. Je voudrais qu'on écoute Moussa Baba qui nous écoute. Bonsoir Moussa Baba, vous êtes là ou pas?
Oui, Moussa Baba est là.
Et on vous écoute, alors allez-y, soyez le bienvenu sur Inter.
Bonjour à vous, et plutôt bonsoir à vous, et M. Le Maire et d'autres sur...
Allez-y, tout le monde vous écoute.
Je m'excuse, madame, une seconde, laissez-moi de donner mes condoléances à trois personnes, s'il vous plaît.
Bah, c'est à
nous... Avant que je vous demande, s'il vous plaît, c'est-à-dire que Laurent Chadou, que j'ai appelé RFI pendant 20 fois, je n'ai pas donné condoléances à sa famille, RFI. Et puis l'étoile de l'Afrique qui n'est pas seulement une étoile du Sénégal, qui est France Gall, qui est décédée.
Okay.
Et mes condoléances à sa famille. Bon.
Maintenant, est-ce qu'on pourrait, et merci d'avoir passé ce message et ceux que ça concerne vous ont entendu et vous en remercie probablement Moussa Baba. Est-ce qu'on peut venir à notre sujet?
Notre sujet, c'est ça. Et moi, je crois que si j'appelle aujourd'hui sur France Inter, les élus qui m'écoutent ou d'autres personnes, c'est-à-dire que je suis là depuis bientôt 40 ans parce que je suis arrivé ici dans les années 80. Mm-hmm. Mais moi, j'ai dit les élus de la République et vous, les journalistes, comment on va faire des enfants qui sont nés ici, qui sont tous en stage de formation, ils n'ont pas un emploi stable. Et on a des milliers de personnes qu'on les laisse dehors, on ne peut rien faire à eux. Et puis un jour, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là? Parce que peut-être tout le monde a la foi de faire l'humanisme comme les associations. Mais c'est très difficile hier déjà, il y a plus de 100 morts entre la Libye et l'Italie. Moi je crois qu'on va faire comme ça, on bloque d'abord les passages pour essayer d'aider ceux qui n'ont pas encore été en règle. En plus, pour mon dernier mot, peut-être, excusez-moi,
allez-y.
Vous voulez que j'aille vite fait.
Un peu quand même, oui.
La jeunesse africaine, il faut que vous leur fassiez comprendre que l'Europe est très dure aujourd'hui. Ils le savaient, peut-être ils vont savoir encore plus. Il faut les former et les donner à leur propre pays d'origine. Ça sera mieux pour nous.
Merci beaucoup, Moussa Baba, pour votre remarque et votre question. C'est vers vous que je me tourne, Roland Ris. Est-ce qu'il faut, vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas confondre, il faut faire attention à ne pas aller trop vite sur trop de gens qui arrivent et pas assez d'emplois. Ce que nous dit Moussa Baba en creux, c'est attention, l'Europe est pleine. Comment on fait pour expliquer les choses différemment aux gens?
Je ne suis pas tout à fait de cet avis que l'Europe soit pleine, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a effectivement des concentrations humaines en Europe, mais il y en a d'autres ailleurs dans le monde. Je pense que ce qui est, à mon avis aujourd'hui, extrêmement important, c'est d'abord de traiter, si je puis dire, les personnes qui sont en situation régulière, qui ont obtenu le statut de réfugiés. Cela, il faut les intégrer le plus possible. Et d'ailleurs, je salue le travail que fait l'université de Strasbourg pour l'apprentissage du français. C'est quand même à partir de l'apprentissage de la langue que tout commence. Pour ce qui concerne les autres, ceux qui sont en situation d'attente de décision, ils ont un statut également. Et puis, traiter humainement ceux qui sont déboutés, comme on dit, du droit d'asile. Moi, je pense que là-dessus, il faut qu'on ait le plus possible un consensus national. Enfin, ce phénomène, je l'ai dit tout à l'heure, il ne va pas s'arrêter et nous devons nous préparer à des vagues qui viendront pour les raisons climatiques, pour les raisons économiques, pour les raisons politiques, parce qu'il y a des guerres, etc. etc. Tout cela, c'est en cours. Mais ça ne va pas s'arrêter demain et donc il faut qu'on se prépare ensemble, y compris avec les citoyens qui sont volontaires, comme l'auditrice que j'ai entendue tout à l'heure. Il y a des choses à faire, y compris individuellement, j'allais presque dire familialement, dans ces situations-là.
Sans pour autant peut-être substituer à l'État, Laetitia Avia, votre avis là-dessus?
Oui, alors pour rejoindre ce que disait Monsieur Riss, il y a vraiment deux situations. Il y a ces réfugiés, ces demandeurs d'asile, et pour lesquels, en effet, il ne faut pas céder au discours populiste et rappeler qu'on a vraiment une tradition d'accueil des réfugiés sur notre territoire. Et puis, il y a cette situation qui a été évoquée notamment par le dernier auditeur, qui est celle de ces migrants économiques, et notamment de cette jeunesse africaine qui subit une double sanction. Mmh. Parce que aujourd'hui, il faut aussi savoir que lorsqu'on est, par exemple, étudiant dans un pays africain, et qu'on a cette vision de la France comme d'un pays de la solution finalement pour réussir, on arrive
pas seulement de la France, de l'Europe. Et c'est vrai que les choses sont très mal réparties. Le chiffre de 30 000, Roland Riss le répétait.
Et on arrive à dans cette situation où finalement la France n'est pas, où l'Europe n'est pas en situation d'accueillir et de donner des conditions d'intégration économique et sociale dignes de ces personnes.
Sincèrement, l'Europe, la France n'est pas en état économique d'accueillir. Plus de, par exemple, non, là, ces 30 000 migrants qu'on a accueillis.
C'est pas ça mon point. Mon point, c'est qu'il faut, lorsque un migrant est un migrant économique, il faut qu'il vienne dans la connaissance aussi de ses perspectives sur le territoire. Moi, j'ai grandi dans des quartiers populaires avec des personnes, et ma famille m'en fait partie, qui sont extrêmement diplômées et qui n'ont pas pu finalement continuer leur progression professionnelle sur notre territoire. Et le gouvernement, par exemple, dans ce qui sera porté, veut notamment développer ce qu'on appelle le passeport talent, c'est-à-dire cette possibilité aussi pour des jeunes et moins jeunes d'ailleurs aussi, mais des chercheurs, des étudiants qui arrivent sur notre territoire, qui veulent s'intégrer économiquement, d'arriver dans des conditions peut-être plus encadrées aussi et avec plus de perspectives d'avenir.
Julie Pietri. C'est le principe du bon et du bon migrant, du bon et du mauvais migrant en gros.
Non, c'est deux catégories de migrants, c'est des migrants qui sont extrêmement faibles, vraiment, et qui sont dans une situation démunie, qui sont les réfugiés. Et il y a toutes les autres personnes qui arrivent sur le territoire pour des conditions qui sont juste des conditions économiques qu'il faut accueillir, mais qu'il ne faut pas accueillir en situation irrégulière et pour qui il faut aussi permettre de travailler s'il y a emploi.
Et qui peuvent être démunis sur le territoire aussi aujourd'hui en France.
Qui sont démunis aujourd'hui sur le territoire.
Pardon, Julie, je vais laisser finir quand même.
Je pensais aux circulaires Collomb, là, quand je vous entendais, de tri dans les centres d'hébergement d'urgence, alors qu'il y a quand même un principe de prise en charge pour tous, sans distinction de nationalité, dans ces centres aujourd'hui en France. D'ailleurs, je crois qu'il y a un recours d'association devant le Conseil d'État.
Je pense que je ne suis pas la première personne à vous dire que ce n'est pas une circulaire qui concerne relative à un tri. Et nous veillerons à ce qu'elle s'applique strictement dans le cadre dans lequel elle a été fixée. C'est une circulaire qui a un objectif, c'est celui que je rappelle depuis tout à l'heure, c'est d'aider les demandeurs d'asile, c'est d'identifier des personnes qui sont aujourd'hui dans des centres d'hébergement d'urgence et qui ne sont pas censées être dans ces centres, qui n'ont peut-être pas encore engagé leur procédure parce que elles n'ont pas été suffisamment orientées. Et c'est donc, ce ne sont pas des agents de police, ce ne sont pas des agents de contrôle, mais bien des personnes qui sont habilitées et qui travaillent déjà aujourd'hui auprès des réfugiés, qui sont là, qui n'ont aucun pouvoir de contrainte, surtout, et qui sont là pour orienter mieux, aider mieux les demandeurs.
Ça veut dire, c'est-à-dire disons les choses très concrètement,
on est dans un centre d'hébergement, voilà. On est là, on se présente en disant, moi je suis un agent pour venir, qui est présent pour aider les demandeurs d'asile. Ces agents de la préfecture ne peuvent pas aller voir une personne en lui demandant son identité.
Et si, il n'y a pas de risque de reconduite à la frontière après ce genre de contrôle à l'intérieur d'un centre.
On est dans
centre,
une démarche volontariste où ces personnes vont donc s'identifier auprès des agents de la préfecture en leur disant « Moi, je suis demandeur d'asile » et on va pouvoir mieux les orienter.
Philippe nous appelle. Bonsoir Philippe, allez-y.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Oui, voilà, excusez-moi. Donc juste deux choses. Bravo à monsieur le maire de Strasbourg.
Ben voilà.
Chapeau.
Il vous écoute, il est
content. Comme ça, c'est rare, des politiques. Et deuxièmement, Madame Laetitia, je crois, de La République En Marche.
Laetitia Avia.
Bravo aussi pour dire, il faut...
comment dire, allez-y, Philippe. Rassemblez-vous.
Exclure mieux. Ça m'a beaucoup choqué.
Et vous avez une question, Benoît, ou pas ? Et on a bien entendu votre remarque. Est-ce que vous avez une question, Philippe ?
J'ai deux choses à dire. C'est par rapport au fait de cet homme, je ne me rappelle plus son nom, je n'arrive pas à le retenir, qui a accueilli des migrants chez lui pour les nourrir,
Cédric
et les loger, voilà, et exactement, et qui est, je crois, mis en examen.
Qui est passé devant le tribunal beaucoup de fois. Votre question, elle est autour de ce fameux délit de solidarité, j'imagine.
Voilà, exactement. Et aussi au niveau des Pyrénées, où des dames ont fait passer des migrants. Et je trouve ça mais absolument lamentable. Au niveau politique, je peux comprendre. On peut parler des migrants, de la problématique. Mais comment peut-on condamner des gens qui donnent à manger à quelqu'un et qui leur donnent une couche pour dormir? Je suis désolé, il n'y a pas si longtemps que ça, on appelait ça les justes.
On a compris votre colère en la matière, Philippe, mais comme il nous reste que 2 minutes, je voudrais vraiment que les gens autour de la table aient le temps d'y répondre. Michael Neumann, il faut revenir sur le délit de solidarité.
Oui, on va revenir sur la question du délit de solidarité.
C'est ce que je veux dire.
C'est probable, mais très, très, très rapidement, parce qu'on a peu de temps, effectivement, et que j'ai pas grand chose à ajouter. Effectivement, la politique gouvernementale aujourd'hui, elle est d'une dissuasion à l'égard des initiatives de ce type, et que dans le même temps, l'État se comporte de manière, je dirais, inacceptable. On regarde les injonctions judiciaires qui lui sont faites pour, de son côté, répondre à ses obligations. Donc, on est sur un double discours ici là qui est terrible finalement, où l'idée maîtresse est de dissuader encore en espérant que je dirais les conditions d'accueil les pires possibles servent de leçon finalement à la fois aux gens qui sont arrivés et aux gens qui ne sont pas arrivés et auxquels on adresse comme ça un signal très très fort. Juste quand même une toute petite remarque.
Très très vite, parce que je voudrais quand même que Lydie Savia puisse répondre notamment sur le délit de solidarité.
Il y a quelque chose d'un petit peu condescendant dans cette idée de décourager les départs des gens du Sud. Personne au Nord, en Europe, aux États-Unis, ne souhaite dissuader les jeunes, les étudiants d'aller parfaire, terminer leur parcours de vie ailleurs, soit dans les pays du Sud, soit aux États-Unis, soit. Et alors, il s'agirait d'un seul coup, parce qu'on parle de gens du Sud, de les cantonner chez eux et de refuser absolument de considérer qu'eux aussi, ils ont une trajectoire qui s'inscrit en dehors de leur pays.
Juste un mot de conclusion sur le délit de solidarité, puisque vous n'avez pas pu répondre, Laetitia Avia, juste avant qu'on rende l'antenne, si vous le voulez bien.
Écoutez, moi, je suis désolée, mais je dois répondre à ce point sur cet aspect condescendant, puisque je suis désolée, mais on ne peut pas aujourd'hui nier la double sanction que vivent énormément de personnes qui quittent des territoires pour pouvoir retrouver finalement une condition qu'ils ne trouvent pas en France. Et ça, c'est une réalité que je connais. Ensuite, sur ce délit
de solidarité,
je n'aime pas cette appellation, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de pouvoir mieux encadrer les choses et surtout de rester dans le respect de notre état de droit. Et c'est cela dont il faudra s'assurer pour la suite.
Et les concertations, elles commencent demain. Le projet de loi viendra. La discussion à l'Assemblée nationale, ce sera au printemps, l'occasion très largement d'y revenir, parce que ça fait couler beaucoup d'encre. Il y avait beaucoup de questions et merci à tous.